Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
Parole de femme.
De nombreux enfants dans le monde ont besoin d'une éducation spéciale en raison d'un handicap ou de troubles d'apprentissage. S'ils sont généralement pris en charge par les systèmes d'éducation nationale en Occident, en Afrique subsaharienne, ils sont souvent encadrés par des ONG, missionnaires ou institutions privées. Aux États-Unis, ils sont près de 7 millions selon le centre de recherche Pew. La majorité de ces enfants sont intégrés dans des écoles ordinaires où ils reçoivent des cours adaptés à leurs besoins. Dr Stéphanie Mbella, professeure spécialisée et conseillère en orientation dans le Maryland, explique les mécanismes permettant à ces élèves de bénéficier d'une éducation inclusive de qualité, notamment grâce à une loi de près d'un demi-siècle.
Aux États-Unis, il y a une loi qui a commencé en 1975 et qui a évolué au cours des décennies. Le sigle, c'est IDEA et elle a deux parties. Une partie qui est B et une partie qui est C. La partie C s'occupe des enfants qui ont des handicaps qui ont été déterminés à la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Et la partie B s'occupe des élèves de 3 ans à 21 ans. Donc les profils varient. La loi aussi détermine les catégories. Il y a 13 catégories de handicap qui sont reconnues par la loi. Je vais juste citer quelques-uns. Il y a par exemple les troubles d'apprentissage qui sont assez communs. Et les enfants ont des problèmes de langage écrit, des mathématiques ou bien d'écriture. Il y a aussi un autre qui est assez récurrent, c'est le spectre de l'autisme. Il y a plusieurs enfants qui ont ce handicap. Nous avons entre autres des perturbations émotionnelles où les enfants ont des problèmes de dépression, d'anxiété. Et un autre qui apparaît souvent, c'est la surdité. Nous avons entre autres des enfants qui ont des problèmes de traumatisme crânien. Et je vais aussi citer ceux qui ont beaucoup de handicaps. Donc, quand ces enfants ont une combinaison de nombreux handicaps, les enfants qui souffrent de déficience intellectuelle, et ces derniers aussi sont pris en charge dans la loi. Donc, c'est juste quelques catégories. La loi exige que ce soit les écoles qui vraiment, au travers des tests administrés, puissent vraiment référer ces enfants, on les repère, et mettre sur pied des stratégies pour s'assurer que ces enfants puissent fleurir dans le milieu académique.
Permet l'intégration de l'élève en difficulté dans une classe ordinaire. Alors, quels sont les atouts justement de cette formule d'éducation inclusive et dans quelle mesure serait-elle préférable à une école spécialisée, finalement du moins complémentaire?
Nous vivons dans une société où toutes les personnes sont acceptées. Donc, avoir ces enfants qui souffrent de handicap dans un milieu académique normal, c'est juste un reflet de la société dans laquelle nous vivons. Et avoir ces enfants aussi dans ce cadre-là élicite un peu de tolérance envers les autres enfants qui réalisent que il y en a parmi eux qui apprennent différemment. C'est vraiment une mesure de tolérance et il y a un côté où les élèves apprennent à apprécier ce qu'ils ont. Parce que quand on voit comment les enfants qui ont les troubles d'apprentissage, par exemple, toutes les mesures qu'ils doivent suivre pour pouvoir réussir, on se dit, mais moi je dispose de toutes ces facultés, pourquoi ne vais-je pas en prendre vraiment avantage?
Donc c'est bien en fait pour les élèves eux-mêmes, ce jeune garçon, cette jeune fille finalement va apporter quelque chose hein, et il y a une relation hein, qui se tisse finalement entre les élèves donc réguliers on va dire et ces jeunes élèves-là.
Thank you. Stéphanie Mbella, les mécanismes de contrôle du gouvernement sur les programmes d'éducation spécialisée. Là aussi, il y a des lois, il y a des plaintes, il y a des pénalités.
Oui, il y a des lois. Toute école qui reçoit des fonds fédéraux doit respecter cette loi. Et en termes de pénalités, chaque État, bon, il faut juste donner un petit contexte. Le fédéralisme des États-Unis permet que les États puissent aussi avoir une certaine mainmise dans la gestion des districts scolaires qui sont dans leur État. Donc, il y a des facteurs qui sont des déterminants qui sont vraiment listés toute l'année pour mesurer le progrès de ces enfants qui souffrent de handicap. Et quand les districts scolaires n'arrivent pas à atteindre ces objectifs qui ont été déterminés au début de l'année académique, il y a certaines pénalités qui s'en suivent. Ces districts, ils peuvent être mis sous assistance. Donc, le gouvernement fédéral va intervenir pour leur permettre de mettre sur pied l'application de la loi. Et parfois, ça peut être un an ou deux ans. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le côté financier est vraiment une grosse incitation parce que si un district scolaire n'arrive pas à être conforme à la loi, il peut voir son budget par enfant être réduit. Et ça a d'autres conséquences, ce qui se répercute sur tout le système scolaire.
Alors, selon le programme des Nations Unies pour le développement, 10% de la population mondiale vit avec des besoins spéciaux et 80% des personnes handicapées vivent dans les pays en développement. Et la Banque mondiale estime que sur les 58 millions d'enfants qui ne fréquentent pas l'école primaire, un tiers ont un handicap. Alors, le cas du Cameroun et éventuellement d'autres pays africains, vous pourriez nous faire un petit état des lieux, quels sont les besoins ?
Le Cameroun est aussi comme de nombreux États africains où on essaie, autant que faire se peut, d'inclure ses enfants dans le milieu de l'enseignement général. Pour le moment, les services qui sont disponibles pour ces enfants viennent plus du côté privé, c'est-à-dire des écoles qui sont gérées par des missionnaires ou aussi des organisations non gouvernementales. Mais le gouvernement a mis sur pied des lois et essaie d'avoir cette pratique vraiment répandue dans tout le pays et il s'attelle aussi à ce que toutes les écoles puissent encadrer ces enfants et qu'ils puissent aller à la réussite. Est-ce qu'il y a des chemins à faire? Oui, comme dans tous les pays africains. Le Cameroun n'est pas unique dans ce sens, mais la volonté est là et il suffit que tout le monde puisse y mettre du sien afin que ces enfants puissent se sentir à l'aise dans le milieu académique quand ils le sont ici aux États-Unis, par exemple.
Mmh. Oui, effectivement, hein, il y a beaucoup de mécanismes qui sont en route, hein, qui démarrent, qui se mettent en place, hein, dans plusieurs pays africains. Stéphanie Mbella, on revient un petit peu aux États-Unis parce que là, bon, c'est vraiment différent de l'Afrique, hein, la prise en charge privée-publique. Aux États-Unis, le privé est-il toujours synonyme de qualité ?
Non, pas nécessairement. Comme tout ailleurs, nous sommes des êtres humains et il y a des défaillances qui s'observent. Mais en ce qui concerne ces enfants-là, qu'ils soient dans un institut privé ou dans un institut public, la loi est la loi. Elle s'applique. Même ces instituts privés doivent respecter ces déterminants. Et chaque année, si ces instituts ne le respectent pas, ils ont une conversation avec les autorités fédérales.
Stéphanie Mbella, aux États-Unis, quel type d'éducation spécialisée pour les surdoués ? Est-ce qu'il y a des écoles et des programmes spéciaux ? Parce que là aussi, en fait, ce jeune-là, il ne peut pas s'intégrer dans une école ordinaire. Il a des capacités supérieures, il sait déjà beaucoup de choses et du coup, il s'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait de ce jeune-là ?
Ces enfants aussi font partie de l'éducation spécialisée, mais contrairement à la loi pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage et les autres handicaps que j'ai mentionnés au début de cette conversation, les enfants surdoués ne sont pas nécessairement cherchés par les écoles. Donc, quand on administre un test normalisé et on découvre qu'un enfant est surdoué, là, on peut le guider dans un programme spécialisé dans l'école même. par le district scolaire. Mmh. Maintenant, parmi les enfants surdoués, il y a une catégorie qu'on appelle les deux exceptions, c'est-à-dire un enfant peut être surdoué dans un domaine académique précis, mais avoir des troubles d'apprentissage dans un autre. Ça, ça devient encore plus compliqué et c'est là où l'enfant a besoin d'un suivi de thérapie, en fait, parce que c'est un peu difficile pour un enfant qui est peut-être à l'école primaire de comprendre qu'il peut, au niveau du cours élémentaire, lire au niveau de la terminale, mais avoir des difficultés énormes peut-être pour faire des calculs que l'on considérerait basiques. Donc, il y a aussi ce sous-groupe parmi les enfants surdoués, mais les écoles essaient toujours d'avoir des modules et des classes qui sont vraiment spéciales juste pour ces enfants afin qu'ils puissent aussi s'épanouir dans le milieu académique.
Selon l'Institut kényan d'éducation spéciale, une éducation inclusive réussie passe principalement par l'acceptation, la compréhension et la prise en compte des différences et de la diversité des élèves qui peuvent inclure les aspects physiques, cognitifs, académiques, sociaux et émotionnels. Alors, les parents, qu'en est-il de l'acceptation des difficultés de l'enfant? Comment sont-ils soutenus pour accompagner leur enfant en difficulté d'apprentissage? Et aussi, quelles relations ont-ils avec l'éducateur? On sait par exemple qu'en Afrique, on a eu beaucoup de témoignages des parents ne veulent pas reconnaître le handicap de leur enfant, ce qui pose problème.
Même ici, il y a des parents qui vraiment ont des difficultés à accepter que leurs enfants apprennent différemment, mais la loi met à leur disposition des ressources qui peuvent un peu réduire le stress que cela cause d'avoir un tel enfant. Il y a une équipe qui est en place, l'équipe est là en commençant par les psychologues, il y a une assistance sociale, si l'enfant a besoin d'une infirmière, d'un orthophoniste, il y a ces ressources qui sont disponibles. Et en plus de cela, il y a le transport scolaire aussi qui est disponible pour les enfants, parce que certains de ces enfants, Si ils utilisent par exemple la chaise roulante, ils ont besoin d'arriver à l'école. Il y a les bus scolaires, il y a un transport. Donc il y a des ressources qui sont là. Et si les parents aussi, il y en a qui ont des enfants qui ont des handicaps sévères, ces enfants ne sont pas dans des classes inclusives, mais sont dans des classes différentes, toujours dans le même lycée ou bien dans le même collège ou la même école primaire. Il y a toujours des para-éducateurs qui sont un peu comme des assistants de professeurs, des maîtresses et des maîtres pour aider. Et les parents ont des relations avec ces derniers. Donc, je veux dire par là qu'il y a toute une structure pour aider les parents. Même dans les communautés, il y a des ONG qui donnent du repos à des parents. Ouais. Oui, donc ils sont soutenus.
Stéphanie Mbella, ça nous ramène un petit peu aux résultats de l'éducation spécialisée. Qu'en est-il du taux d'abandon scolaire et de réussite? Celles et ceux qui décrochent les diplômes, malgré leurs conditions. Vous-même, dans votre travail, vous avez eu des satisfactions. Et c'est une lutte quotidienne, on imagine, parce qu'en plus de ça, vous avez de belles réussites, n'est-ce pas?
Oui, c'est une lutte quotidienne parce qu'il faut le reconnaître, être enseignant n'est pas facile et être enseignant spécialisé est encore plus difficile. Et la société dans laquelle on navigue n'a pas encore ouvert toutes ses portes à ces enfants-là. Qu'à cela ne tient, il y a des jours qui sont vraiment très agréables. Personnellement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants qui essayaient d'entrer dans le milieu du travail après l'obtention de l'équivalent du bac au lieu de continuer les études supérieures. Mais ce taux est plus élevé parce qu'en fait, la société les encourage à être actifs. Mais il y en a qui poursuivent des études supérieures. Il y a des universités qui sont là pour recruter ces enfants qui ont des troubles d'apprentissage et autres. Et dans mon cas personnel, j'ai eu à travailler avec une jeune dame qui aujourd'hui a eu son master's et elle est assistante sociale. C'était très difficile, je me rappelle. Et elle me le rappelle aussi. Mais quand je la vois, je dis, les miracles existent et elle est très généreuse. Elle veut vraiment rendre à la société ce qu'elle a reçu de tout ce support qu'elle a eu tout en étant au lycée. Donc oui, il y en a qui vont et vraiment, ils fleurissent et c'est beau à voir le jour de leur remise de diplôme.
Très belles histoires. Et à contrario, des déceptions, des frustrations?
Oui, j'en ai aussi eu. Malheureusement, j'en ai eu beaucoup parce que la loi recommande qu'à partir de 14 ans, qu'on sache exactement quel plan ils ont après le bac. Est-ce qu'ils vont continuer continuer dans le milieu de l'emploi ou bien ils vont aller dans les études supérieures. Qu'est-ce qu'ils veulent faire après le bac? Mais il y a des enfants qui sont découragés et certains ne finissent pas, ils décrochent avant l'obtention du bac. Et il y a d'autres aussi, ils commencent vraiment le travail et ils abandonnent, ou bien d'autres qui malheureusement commencent l'université et ils abandonnent. Donc il y a ces histoires-là parallèles, mais il y a toujours un éclairci au bout de l'horizon.
Est-ce qu'ils sont un petit peu boostés dans le sens positif au niveau moral? Est-ce qu'ils sont pas un peu complexés aussi, ces jeunes justement, et qu'ils ont besoin de gagner en assurance? Est-ce que vous les aidez dans ce sens-là? Quelqu'un qui a des problèmes d'apprentissage et qui décroche un master, un doctorat ou je ne sais quoi, c'est quelqu'un qui, à mon sens, est peut-être supérieur au surdoué parce qu'il fait beaucoup plus d'efforts et il y arrive comme les autres.
Ça, c'est vrai. Et c'est pour cela que quand on travaillait, on essayait d'avoir une semaine au cours de laquelle on sensibilisait toute l'école sur les troubles d'apprentissage, les handicaps, et on mettait devant les enfants ces célébrités, des personnes du monde politique qui ont des handicaps, mais qui ont réussi.
Ouais, c'est très bon ça. Stéphanie Mbellin, pourriez-vous citer pour terminer deux ou trois qualités de l'éducateur ou enseignant spécialisé?
Numéro un, il faut aimer les enfants. Parce qu'ils sont des enfants et au-delà de leur handicap, il y a des jours où c'est très difficile. Numéro deux, il faut être très très organisé parce qu'en fait, on navigue avec beaucoup d'enfants. La charge de travail est très très lourde. Et numéro trois, il faut avoir un hobby pour éviter le surmenage parce qu'après le travail, il faut vraiment se séparer de cet environnement pour essayer de jouir du milieu familial autant que faire se peut.
Mais vous n'avez pas cité la patience, la résilience, parce qu'il faut énormément de patience pour faire un travail comme celui-là.
Oui, moi je dis aimer les enfants parce que quand on les aime, la patience vraiment, elle devient naturelle. Ouais. Donc cet amour pour vraiment voir cet enfant éclore, on devient patient. On
développe ça. Quelle est la plus belle chose que vous avez appris avec ces enfants, avec ces jeunes?
Il ne faut jamais négliger quelqu'un. L'éducation, c'est un droit et tout le monde, tant que les ressources sont disponibles, toute personne peut vraiment y arriver.
C'était Stéphanie Mbella, professeure spécialisée, conseillère en orientation dans le Maryland aux États-Unis.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Les adhérentes du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire vont bénéficier d'une couverture sociale en souscrivant au régime social des travailleurs indépendants. La FAFCI, un programme de financement des micro-projets des femmes mis en place en 2012 par la première dame Dominique Ouattara, permet aux travailleuses du secteur informel d'accroître leurs activités génératrices de revenus. Elles vont désormais bénéficier d'un régime de sécurité sociale et pourront ainsi préparer leur retraite. Selon Madame Ouattara, le Fonds d'appui aux femmes a enregistré un taux de remboursement de 98% des prêts octroyés. Ces résultats positifs ont été obtenus grâce à la conscience professionnelle de nos sœurs qui mettent un point d'honneur à rembourser les prêts qu'elles perçoivent, a souligné Madame Ouattara. Revenons sur ce partenariat avec la Caisse nationale de prévoyance sociale à travers un reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Bowies.
Une signature de partenariat qui vient booster le devenir des femmes à l'accès au régime social des travailleurs indépendants de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et c'est un grand pas franchi pour ces femmes du secteur informel, selon Denis Charles Kwasi, directeur général de la CNPS.
Cet instrument nouveau de sécurité sociale vient répondre efficacement et de façon durable à la question d'une protection sociale pour tous en Côte d'Ivoire.
Serge Pacom Dibi, directeur du projet à la Caisse nationale de prévoyance sociale, explique le contenu du régime social des travailleurs indépendants aux femmes.
Vous, mesdames, qui êtes sur le terrain, en tant que femmes commerçantes, artisans et autres, quand vous ne pouvez pas travailler, l'argent que vous avez, on va lui donner un peu à la CNPS, on puisse vous donner une partie. Vous nous avez dit que vous gagnez 30 000 par mois. Sur les 30 000, vous avez une cotisation de 3 600 par mois. On a calculé un peu, et ça fait 120 francs par jour. Et avec ça, vous tombez enceinte. Pendant les 98 jours, ça fait 3 mois et demi, vous aurez 30 000 francs par mois. Donc vous aussi, à 7 mois et demi, vous pourrez aussi prendre des congés de maternité comme vos sœurs qui sont salariées dans le bureau climatisé.
La porte-parole des femmes du FAFSI, Viviane Ngorando, qualifie cette action d'offre salutaire.
Grâce au FAFSI, je vais bénéficier du régime social des travailleurs indépendants. Je sais que je dois faire des cotisations mensuelles pour bénéficier de ces avantages. Et je suis prête à le faire, car c'est une petite contribution qui peut faire une grande différence pour mon avenir.
Présidente fondatrice du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, signataire de ce partenariat, la première dame, Madame Dominique Ouattara, a invité toutes les femmes bénéficiaires du FAFSI à y adhérer pour diverses raisons.
En effet, nos sœurs pourront ainsi continuer d'exercer leurs activités dans la quiétude et la sérénité, en étant protégées contre les risques de perte de leurs revenus en cas de maternité, d'accident, de maladie ou de retraite.
Le FAFSI, c'est près de 300 000 bénéficiaires et ce partenariat avec la CNPS permettra une introduction véritable de la sécurité sociale dans toutes les couches de la société ivoirienne. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Entre parenthèses.
La région de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, comprend plusieurs contrées aurifères non loin de la Guinée et du Mali. Aux côtés des sites d'exploitation formelle des sociétés minières, l'or est extrait de la roche par des procédés artisanaux. Les produits chimiques utilisés pour son traitement nuisent à l'environnement et à la santé des mineurs et de leurs familles. Des femmes enceintes sont exposées et des enfants en bas âge présentent des symptômes d'empoisonnement au mercure. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, l'exploitation minière artisanale de l'or déverse environ 1360 tonnes de mercure par an dans la nature. La propriété de ce métal sur le développement embryonnaire peut provoquer des malformations congénitales. Un récit de Gininiwa.
Métaba souffre de migraines chroniques et sa fille Awa tousse depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Ba travaille comme orpailleuse artisanale dans la région extrême orientale du Sénégal, à Kédougou, près des frontières avec le Mali et la Guinée. Comme beaucoup de femmes dans les mines, elle amène sa fille au travail car elle allait encore.
Si je ne viens pas ici pour travailler, comment vais-je survivre? Comment vais-je gagner ma vie?
Mais les mines d'or de Kédougou ne sont pas un endroit pour les enfants. Il y a des dizaines de fosses à ciel ouvert, pas d'équipement de sécurité et les dépanneurs disent que la poussière à laquelle ils sont exposés est toxique.
Je sais que nous sommes exposés, à commencer par l'eau que nous buvons. Le puits est contaminé, il n'y a pas d'eau potable. Quand tu bois cette eau, tu sais que tu vas tomber malade.
Une fois l'or collecté, les mineurs le traitent avec du mercure, un métal lourd qui, selon les experts de la santé, attaque les systèmes nerveux digestifs et immunitaires. Il peut endommager les poumons et les reins et altérer l'ouïe, l'équilibre, la vision, la pensée et la respiration et provoquer des malformations congénitales. À Kédougou, qui abrite 98% des mines d'or du Sénégal, plus de 5 tonnes de mercure sont utilisées chaque année. Le produit chimique nuit également à l'environnement.
Quand le mercure se débarrasse de l'or, ça fait une fumée. Et c'est cette fumée qui peut aller dans l'atmosphère, et se composer avec des feuilles. Après la pluie ou le vent, ça va polluer la terre. Et là, il y a les ruissellements d'eau qui vont amener dans les cours d'eau et après aller dans le fleuve.
L'extraction de l'or à Kédougou provoque également la dégradation des sols et la déforestation. Les mineurs artisanaux travaillent de manière indépendante dans la région de Kédougou. L'industrie est essentielle à l'économie du pays et à la capacité des mineurs à pouvoir gagner leur vie. En 2020, le ministère des Mines et de la Géologie du Sénégal a lancé un projet d'installation de 400 unités de traitement de l'or sans mercure à Kédougou.
Toute personne qui va traiter son or dans le centre sera conscientisée que nous n'allons pas utiliser de produits chimiques.
Mais la construction n'a pas encore commencé et prendra au moins 2 ans. Jusque-là, les mineurs comme Ba craignent qu'eux-mêmes et leurs enfants continueront d'être exposés à des éléments toxiques.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.